Les rendez-vous de l'UNIS. En partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux Combalusier. Jeudi 1er juillet 2021, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Immo.
Bonjour et bienvenue sur Radio Immo. Nous sommes au rendez-vous de l'UNIS qui se tient aujourd'hui, 1er juillet 2021, au pavillon Dauphine. Et c'est un événement en partenariat notamment avec TKE et Drieux Combalusier. Excusez-moi, il était difficile. Je m'étais entraînée pourtant avant. On a eu une très très jolie table ronde tout à l'heure et on a la chance d'avoir en plateau sur Radio Immo Henri Buzicazo pour nous parler de ce qui s'est dit tout à l'heure puisque vous étiez le maître de cérémonie. Donc on le rappelle, Henri Buzicazo est président de l'IMSI. Bonjour Henri.
Bonjour Charlotte.
Bah écoutez, je prends un peu votre place, mais je vous laisse quand même aussi...
Oui, je vous laisse cette volontiers. Non, moi je voudrais dire deux, trois choses. D'abord, un débat avec deux parlementaires intéressés à des titres divers à l'avenir de la ville, hein, Mickaël Nogal, qui était à Toulouse, mais avec nous en visio, Sylvain Maillard, et puis Olivia Polski, élue de Paris, adjointe à la maire de Paris. Des sensibilités différentes, politiques différentes, même entre Sylvain Maillard et Mickaël Nogal. Voilà, si on regarde de près, il y a des nuances. Mais sur les grands sujets, je trouve, d'avenir de la ville, il y a beaucoup de points communs. Beaucoup de points communs. Et jusqu'à devoir malmener un peu les professionnels pour leur dire il faut changer.
Oui, il y a eu des réactions dans la salle.
Il faut s'adapter à des nouvelles mobilités, il faut s'adapter à des nouveaux équilibres. Moi, j'ai vu beaucoup plus de points d'accord entre ces trois élus que de points de désaccord et beaucoup de courtoisie. Et je voudrais dire qu'on a traité des trois grands sujets du moment, c'est-à-dire pas seulement de résidentiel, d'habitation. On parle souvent beaucoup de ça, hein, c'est normal, c'est vraiment ce qui préoccupe les ménages directement. Mais on a parlé de l'avenir des commerces et on a parlé aussi de l'avenir des bureaux. Les trois grands actifs qui intéressent les professionnels de l'UNIS au moment de conseiller leurs clients. Moi, je trouve qu'on a donné des perspectives plutôt heureuses. Et oui, c'est vrai, on change d'air avec la Covid.
Oui, c'est vrai, c'était plutôt optimiste. Et du coup, on accueille également sur ce plateau Sylvain Maillard. Vous êtes député de la première circonscription de Paris depuis, semble-t-il, 2017. Et vous avez été extrêmement optimiste sur ces questions de la ville après Covid. Et juste, je me permets de vous redonner la parole juste après. On accueille également Émilie Asselin-Jousset, qui forcément est présente dans tous les débats de ces rendez-vous de l'UNIS en tant que présidente de l'UNIS Grand Paris Île-de-France.
Bonjour Charlotte. Oui, effectivement, aujourd'hui, pour notre grande rentrée au pavillon Dauphine, lors de ce rendez-vous, puisqu'on peut enfin aujourd'hui faire un rendez-vous en présentiel, ce qui nous a tant manqué, même pour nous professionnels.
Avec les distances sanitaires.
Exactement, dans le respect des distanciations sociales et des gestes barrières. Ce qu'on a voulu organiser ce soir, c'était un grand débat, avec trois intervenants de haut niveau, et on les remercie encore vivement, sur la ville d'après Covid, parce que cette pandémie, elle nous est tous tombée dessus. On a tous dû s'adapter dans l'urgence, mais après, qu'est-ce que ça donne dans les faits? Et on voit aujourd'hui Paris changer. Et voilà, on voulait en débattre ce soir. Et oui, on n'est pas d'accord sur tout, mais les perspectives qui ont été proposées, sur lesquels on va rester vigilant, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, parce que la commercialité d'un quartier, ça a de la valeur pour nos clients et elle doit être maintenue. Oui, parce qu'en fait, la circulation dans Paris, ce qui a un petit peu échauffé les esprits, c'est pas simple pour nos amis du bâtiment qui travaillent pour nos clients. Donc tous ces sujets-là ont été abordés ce soir et c'est vrai que pour nous, c'était important de pas se limiter au logement, de l'inclure bien sûr, et je remercie Mickaël Nogal d'être intervenu là-dessus, mais aussi de parler des bureaux et des commerces qu'on oublie souvent dans nos métiers, alors que nous les gérons autant que le logement.
Merci Émilie. Et pour compléter ce plateau, notre spécialiste, chroniqueur maison, on dirait même le grand Manitou, hein, de Radio Immo. On accueille Sylvain Lévy-Valenzi également sur ce plateau.
Comment ça va Charlotte?
Ça va très bien. J'étais engagée, je les regardais, j'ai souhaité participer, mais malheureusement, vous avez été pris par le temps. Et je vais redonner tout de suite la parole à Sylvain Maillard, parce qu'effectivement, la ville après Covid, vous avez donné pas mal d'informations, et comme je le disais, avec un certain optimisme sur ces évolutions qui vont permettre aussi de créer de l'emploi, un tissu économique de demain ?
Oui, moi je suis d'abord très heureux qu'on ait pu avoir un débat et comme vous avez pu le remarquer, il y a évidemment on a des différences de sensibilité tous, mais on sait très bien que l'immobilisme est ce qui pourrait tuer en fait notre ville de Paris. Nous on n'a pas envie que ce soit une ville musée. On a envie que ce soit une ville où il y a des habitants, qu'il y ait des familles, qu'il y ait des entreprises. Et pour tout ça, il faut trouver un équilibre et cet équilibre, il est toujours changeant. C'est l'histoire qui nous le montre. Une entreprise, elle naît, elle vit, elle meurt. Une ville, elle naît, elle vit, elle meurt. Et donc, pour continuer à avoir Paris, Paris qui est la capitale de la France, mais qui est la plus belle ville. Bon, évidemment, je suis élu parisien et j'habite à Paris, donc je suis évidemment pas objectif, mais c'est la plus belle ville du monde. Mais cette ville, elle a besoin d'être transformée. Elle a besoin de trouver des nouvelles mobilités. Elle a besoin de retrouver des habitants. On perd 12 500 habitants par an à Paris depuis des années. 12 500 habitants sont des familles qui s'en vont tous les jours. Je vais vous donner juste un petit chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure. Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, nous avons perdu 797 enfants scolarisés dans Paris. 797. C'est-à-dire multiplié par 4 par rapport à un chiffre habituel. Pourquoi ? Parce que les familles préfèrent quitter, et elles le disent, quitter Paris, qui est une ville qui devient difficile à vivre, parce qu'il y a trop de bruit, parce que c'est très cher, parce que la facilité de transport est parfois compliquée, et que la ville lumière, avec ses spectacles, avec son foisonnement, avec ses entreprises, finalement devient plus aussi attractif que ce que l'on a connu. Donc, ou bien on reste dans le statu quo en se disant ça restera tant que ça tient, tant que ça va, ça va. Ou bien, quand on est élu et qu'on aime sa ville, on doit dire il faut accepter la transformation. Et je terminerai par ma phrase de Bergson. Oui. Il faut
vous redonne la parole dans quelques instants, juste le temps qu'elle
rapidement pour rebondir le temps. Ah, c'est bon.
Transforme et la contrainte en opportunité. La contrainte devient une opportunité. C'est la phrase de Bergson. La contrainte devient une opportunité. Comment on fait pour transformer cela et de faire en sorte que ce qui nous s'impose à nous devient l'opportunité de demain. C'est ça qu'on essaie de construire.
C'est très clair pour une fois, Bergson, que j'ai eu l'occasion d'étudier dans ma jeunesse. C'est l'un des rares philosophes que je n'ai pas beaucoup compris. Sylvain, vous vouliez intervenir.
Non, c'est juste pour se souvenir que ce que vous dites est tellement juste que Paris l'a connu à plusieurs reprises. Il suffit de faire un peu d'histoire. À la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, on est déjà dans une transformation radicale entre le Consulat et le Premier Empire. Là, on a un traçage notamment des voies et des aménagements, notamment par la Seine, qu'on a aménagée complètement.
Tu étais déjà né, on peut le dire, ça te donne
ensuite, on a eu un type formidable à qui il faut absolument rendre justice. D'ailleurs, c'est à partir de ces travaux que Napoléon III a chargé le préfet Haussmann des grands travaux, qui était l'architecte Rambuteau. Et à partir des travaux qui ont 17 années, 30 000 immeubles abattus, c'est absolument un raz-de-marée dans Paris. Et il y a une deuxième période entre 1917 et 1925 où Paris a connu, sur le plan sanitaire, une véritable révolution. Donc, en fait, ce que vous dites, moi, je me rappelle ces éléments-là historiques pour dire que finalement, on vit un peu la même chose. Mais on la vit différemment. Mais c'est les mêmes phénomènes anthropologiques de transformation de la ville.
Et justement, l'haussmannien a été abordé.
Cette notion d'anthropologie de la ville, en fait, elle s'inclut complètement, en fait, dans le langage aujourd'hui qui est, et ça je le salue complètement, par les politiques qui ont bien pris au corps finalement ce type d'élément. Mais bien évidemment, changer de paradigme au niveau de l'urbain, c'est changer ses habitudes. Et il n'y a rien de pire pour un être humain de bousculer en fait ses certitudes, notamment celle d'aller prendre sa voiture pour faire 500 mètres, 600 mètres, aller chercher le pain, aller dans les magasins. On a vu des rues, par exemple, qui sont devenues des zones de chalandise extraordinaires dans Paris. Elles ne seront peut-être plus demain. Mais elles seront ailleurs, ou les organes se déplaceront ailleurs. Et c'est vrai que cette période entre le travail, les travaux et l'acceptation en fait, de la population pour que cette transformation de la ville s'achève, elle est toujours anxiogène. Et c'est là que les politiques en fait, ont un rôle majeur. Je pense que vous le savez bien, monsieur le député, que effectivement, dans la pédagogie au quotidien, puisqu'on vit une époque sans précédent qui est celle de l'accélération techno, une accélération qui génère beaucoup de schizophrénie, d'angoisse, et c'est vraiment anxiogène, ne serait-ce que sur la mobilité, par exemple. On sait que sur les grandes métropoles comme Paris, le taux de personnes qui sont touchées par des phénomènes de burn-out, de dépression, est plus élevé en moyenne de plus de 30% par rapport aux villes de taille intermédiaire, parce qu'effectivement, c'est angoissant de s'éloigner de son lieu de travail, d'avoir des transports qui sont parfois un peu compliqués. Mais clairement, il faut que la ville se transforme, vous l'avez clairement signifié, et pas uniquement pour devenir une ville dortoir ou une ville musée où on se déambulerait. C'est aussi une vie dynamique, une ville technique.
Je pense que personne ne veut que Paris devienne une ville musée, une ville dortoir. On veut tous une multiplicité d'usages et d'occupations et de personnes qui y vivent. Mais je pense que c'est un peu contradictoire, cette volonté, avec ce qu'on a pu constater sur les refus des tours à Paris. Il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui de raser autant d'immeubles que le baron Haussmann. Donc du coup, on va être dans une...
C'est vrai que le baron Haussmann, il n'a pas demandé l'avis.
Voilà, on n'a pas vraiment exproprié les copropriétés, comme on le fait. Et aujourd'hui, surtout, on se rend compte avec le poids des architectes des bâtiments de France, quand nous, professionnels, entretenons le bâti parisien, qu'on n'a pas le droit de changer d'une virgule la couleur de la façade et des garde-corps et des volets. Donc, il y a aussi cette volonté parisienne de garder l'esprit haussmannien sans penser que les usages sont un peu différents. En même temps, ça va nous permettre, donc là je rejoins le « en même temps », ça va nous permettre aussi de plus facilement transformer ces bâtiments haussmanniens qui peuvent être aujourd'hui des bureaux en logements, comme on l'évoquait tout à l'heure. Puisqu'en fait, c'est des bâtiments qui ont été construits pour de l'habitation. Donc quand on a des bureaux dans le centre de Paris que vous connaissez bien, ça va être plus facile. Mais quand on réfléchit à l'échelle du Grand Paris, Paris ne construit pas assez de logements, donc est assez sclérosé sur son...
La France ne construit pas assez de logements. Donc, les chiffres de l'année...
Moi, je vais me limiter à l'Île de France et au Grand Paris.
Henri ne cesse d'en parler. Les chiffres de l'année en production de logements neufs sont dramatiques et poussent les populations, en fait, à se concentrer sur le bâti ancien. Résultat, mécaniquement, les prix
augmentent. Moi, je pense que les gens partent surtout à cause des prix.
Vous souhaitiez intervenir à ce sujet. Je peux juste me permettre une petite parenthèse avant de vous laisser la parole. Simplement, effectivement, l'haussmannien, on le préserve aujourd'hui, mais il y a quand même une différence entre le bâti haussmannien et ce qu'il y avait avant l'haussmannien. C'est ce qui n'aurait jamais tenu. Alors là, effectivement, on préserve quand même un patrimoine qui est solide. Et puis, je me fais défendresse puisque je vis dans de l'haussmannien. Et en plus, c'est très bien isolé quand on change les fenêtres. Donc, c'est des bâtis qui sont clairement dans l'air du vent écologique une fois qu'on fait les modifications. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure en plateau lors de la table ronde. Je crois que c'est vous qui disiez que l'haussmannien allait peut-être revenir à la mode parce qu'on recherche des petites surfaces de bureaux et que l'open space, l'avenir de l'open space, finalement, avec ce qui s'est passé, c'est peut-être moins une certitude. Alors, je vous laisserai rebondir sur cette affirmation que vous avez eue tout à l'heure, mais juste laisse la parole à Henri.
Non, je crois qu'on parlait tout à l'heure, c'était le thème de la table ronde, on a les grands équilibres. Il faut accepter, Sylvain Maillard le disait, ça a été dit par l'élu de Paris aussi, Olivia Polski, il faut accepter de bouleverser ces équilibres. Sans quoi la ville peut mourir. Tout à l'heure, Sylvain Maillard disait, une ville meurt. Elle peut mourir, elle peut ne pas mourir, mais elle peut mourir. Ça, il faut le savoir. Des villes ont disparu ou se sont tellement affaiblies que tout le monde en est parti, et l'activité économique et l'habitat. Par exemple, parlons de surélévation. Oui, ça a fait sourire. La première ministre du logement qui évoquait ça, c'était Christine Boutin. Mais franchement, on en a ri, y compris dans la communauté immobilière. Je peux en attester. Eh bien, aujourd'hui, on dit oui, il faut être capable de surélever Paris pour loger plus de personnes, pour financer la transition énergétique. Et puis, parce que ces fameuses lignes de crête ont fini par être des habitudes. Oui, il faut des tours. Oui, il faut des tours dans Paris. Ce n'est pas un problème. Mixte, avec des usages mixtes. Oui, il faut être capable de dire qu'un immeuble de logement peut servir à autre chose. Donc, ça trouble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi je voudrais reconnaître aux élus de tous bords une préoccupation assumée qui est celle que la ville soit ouverte à tout le monde. Ma crainte, je suis parisien, j'ai beaucoup de chance, voilà. Je suis accédant à la propriété à Paris, je ne sais pas si je pourrais l'être aujourd'hui, je sais quand je le suis devenu. Oui, les prix sont excessifs, au point Sylvain Maillard a eu le courage de dire devant une assemblée qui n'est pas acquise à l'encadrement des loyers, j'ai évolué.
Oh, qu'il est devenu.
Bon, eh bien moi, je dis volontiers à Sylvain, à la première heure, je ne me suis pas fait que des amis, j'ai dit, je ne suis pas contre. Je dis qu'on en a besoin, qu'en plus c'est un mécanisme qui n'est pas irrespectueux, puisqu'il part du constat de ce qu'est le marché, il gomme les excès. on a un problème d'accessibilité économique de la ville. Mmh. Moi, je ne veux pas que Paris devienne une ville de riches. Mmh. Mais je ne veux pas que Toulouse devienne une ville de riches, ni Bordeaux. Voilà, hein, je suis aquitain.
Ou Lyon.
Ni Lyon, voilà. Mmh. Or, aujourd'hui, c'est une dérive. Mmh. Et donc, il faut imaginer de l'ingénierie. Oui, peut-être le découplage du bâti et du foncier. Sylvain connaît ce sujet mieux que quiconque. Il a beaucoup travaillé là-dessus. On parlait bien sûr de la présence du logement social. Voilà, par tous moyens utiles. L'encadrement, mmh. peut-être des gestes autoritaires, en tout état de cause. Moi, je ne veux pas une ville dans laquelle la diversité sociale s'absente. Je ne veux pas de ça. Voilà. Et je le dis, j'habite l'un des quartiers du cœur de Paris, bourgeois. J'habite le 17e, je dis volontiers. On est ici au cœur du 16e, le 8e.
Je dirais volontiers que j'habite la rue derrière chez vous.
Exactement. Et donc, ces quartiers-là, mais moi, ce que j'aime dans ces quartiers-là, c'est leur diversité. Mmh. C'est leur diversité. Mmh. Et que les taux d'effort exigés des ménages soient selon leur capacité, qu'il y ait des amortisseurs sociaux et qu'il y ait une offre large. Je ne veux pas d'un Paris de riches.
Ça fait longtemps, ça fait déjà une vingtaine d'années. Je pense que le mouvement de gentrification s'est lancé hein,
bien
sur
sûr.
Paris.
Bien sûr.
Sylvain Maillard, est-ce que vous souhaitez rebondir ?
Monsieur le député, quel pouvoir on peut avoir pour essayer, je dirais pas d'encadrer, mais d'essayer d'endiguer cette inflation qui optimise et qui développe une gentrification comme jamais on en a connu. C'est vrai que c'est un sujet. Je suis tout à fait d'accord avec Henri. Est-ce que vous avez, homme politique, vraiment une marge de manœuvre ? Vraiment.
Il y a pas de baguette magique. Il y a pas de baguette magique en disant il suffirait de faire ceci ou cela qui permettrait de trouver un équilibre. Je me souviens d'un slogan d'il y a quelques années sur une campagne municipale parisienne où on disait Paris est une ville de très aisée ou très aidée. Où vous êtes dans les logements sociaux et vous pouvez vivre à Paris avec des tout petits moyens, ou bien vous avez de l'argent et vous pouvez être propriétaire. Donc toute la classe moyenne, au fond, ce sont nos infirmiers, nos policiers, ne peuvent plus se loger dans nos artisans.
Nos enseignants
ne peuvent plus se loger dans Paris.
Ceux et qui
donc
conduisent les bus, les métros.
Alors, c'est des conséquences très claires. Par exemple, une expérience d'élu municipal. Vous ouvrez une crèche, c'est super une crèche. Une crèche municipale, il faut qu'elle soit fermée à 18h30. Pourquoi ? Parce qu'à 18h30, le personnel doit partir pour prendre des trains de banlieue pour rentrer chez lui. Mais 18h30, ça ne correspond plus à la vie des Parisiens. Vous n'êtes plus rentré à 18h30, vous n'avez pas terminé votre boulot, on commence souvent un peu plus tard, et donc vous ne pouvez pas récupérer votre enfant, donc vous devez trouver un autre mode de garde. Et donc, même cette mixité dans les crèches commence à disparaître. Donc, il y a plein de mesures à faire. On parlait d'Airbnb tout à l'heure. Comment on fait pour trouver un bon équilibre ? Moi, je suis pour Airbnb, je trouve ça très bien.
Oui.
Le problème, c'est quand vous avez un logement et que vous partez en vacances 3 semaines par an et vous vous dites, moi, ça va me payer mes vacances, et c'est très bien. Ça amène des touristes et c'est super. Mais à côté de ça,
si c'est limité à 5 semaines par an, on est d'accord.
À côté de ça,
c'est ce qu'on prône et la mairie de Paris nous a jamais répondu. Nous, on est pour 5 semaines par an.
Mais en fait, alors vous parlez du cap des 120 jours.
Ah ouais.
Oui, mais c'est la Constitution. J'ai bossé beaucoup dessus. Constitutionnellement, on ne pouvait pas empêcher, et le libéral que je suis le revendique, on ne pouvait pas empêcher et dire à un propriétaire privé de l'usage qu'il veut faire de son bien.
Donc c'est la définition de la résidence principale.
Ça, c'est une base.
Tout à fait fiscale.
Mais vous savez quoi ? La moyenne d'Airbnb, c'est 30 jours. Donc l'immense majorité des gens font. Mais le problème, c'est qu'il y a des abus. Vous le connaissez, on en l'a dit tout à l'heure, les syndics le connaissent parfaitement. Les abus où vous achetez un appartement très cher qui devient finalement la norme du prix du mètre carré dans votre rue, très cher parce que vous avez une rentabilité telle sur Airbnb.
Exactement.
Et puis pas d'impayé, pas de problème dessus. Les gens passent et donc vous trouvez une rentabilité incroyable. Vous achetez à 100% avec de l'emprunt, vous n'avez même plus besoin de faire un apport. Et donc on déstabilise totalement un marché. Et c'est ça qu'on a réussi à endiguer. Alors c'est vrai que le Covid, là, nous a parfaitement aidés là-dessus. Mais on voit bien que ça a switché. Et puis à côté de ça, on a mis.
Sans porter préjudice à l'introduction.
À côté de ça, on a mis un numéro d'enregistrement. Ça commence à devenir très compliqué. Donc ça, ce sont des mesures extrêmement concrètes qui permettent au fur et à mesure de changer les choses. Et dernière chose, moi je voudrais vraiment sur les familles. Moi, c'est un drame. Tout à l'heure, je vous donnais un chiffre sur le départ des familles avec les enfants qui étaient déscolarisés de Paris pour partir ailleurs. Il faut évidemment des logements adaptés aux familles qu'elles puissent financer. Mais à côté de ça, il faut des petits commerces qui rendent la vie à Paris attractive. Et puis, il faut des écoles à côté. Parce que, imaginez-vous, vous achetez 12 000, 13 000, 14 000 euros le mètre carré. Vous n'avez pas envie de faire 3 km à pied dans Paris pour amener votre enfant à l'école maternelle.
C'est clair.
Ça, ça ne fonctionne pas. Mais c'est le cas à l'heure actuelle, par exemple, dans le 8e arrondissement. Chez moi, dans le 8e, ça, vous pouvez être extrêmement éloigné de votre école. Donc, comment on organise pour qu'une vie soit plus facile à Paris pour les familles? Et parfois, c'est vrai que tout à l'heure dans la salle, je l'entends, le Grand Paris, je passe aussi une grande partie quand même de mon temps en banlieue et en grande banlieue. Il y a une incompréhension là-dessus parce que chacun veut imposer son mode de vie qui a sa légitimité là où il habite, là où il travaille, mais au fond, qui au centre de la ville n'a plus sa légitimité et il faut l'accepter. Mais le changement, vous verrez, fera en sorte de retrouver, de donner une attractivité à Paris. Et honnêtement, s'il n'y a plus l'attractivité de Paris, centre, vous savez quoi ? Il n'y aura plus d'attractivité du Grand Paris, très clairement.
Vous avez, je rebondis, vous avez clivé justement tout à l'heure lors de cette table ronde entre le banlieusard et le parisien. Et c'est vrai que c'était culotté un peu de votre part.
Je me permets juste de rebondir là-dessus parce que je vous ai dit, chef d'entreprise et mon entreprise est à Argenteuil. Et donc, je vis dans le Val d'Oise. Donc, je le vis au quotidien depuis 20 ans maintenant. Et puis, moi, j'ai été élevé à Versailles. Donc, j'ai l'habitude de ce culte de la voiture qui est notre mode de fonctionnement quand on est banlieusard. Vous savez, moi, il y a un point qui était très précis, qui m'a opposé d'ailleurs avec la mairie d'Argenteuil. Pardon, je parle un peu de ma vie, mais très clairement, moi, je venais tout le temps dans mon entreprise. Je mettais 32 minutes à Argenteuil, c'était à 12 km, 32 minutes. J'allais à pied jusqu'à la gare Saint-Lazare, la ligne J. Et à la gare Saint-Lazare, au Val d'Argenteuil, j'ai ma voiture que je laissais au parking gratuit et qui me permettait de faire les 3 derniers kilomètres. 32 minutes porte à porte. Et d'un seul coup, on rend le parking payant. Ce qui fait que c'est impossible, payant à 7 euros l'heure,
c'est plus
impossible de garder la voiture. Et ben, qu'est-ce que vous faites? C'est trop compliqué maintenant, donc je fais du Paris-Argenteuil en voiture. C'est ça que ça a changé.
Une heure.
Pourquoi? Parce qu'il faut absolument organiser les mobilités. Moi, j'ai besoin de pouvoir marcher sur des trottoirs propres, organisés et sécurisés à Paris. Et là, il y a encore du travail. J'ai besoin de prendre un train de banlieue ou un métro qui soit évidemment sécurisé, mieux organisé. Mais honnêtement, on n'est pas si mal loti. Et à côté de ça, j'ai besoin d'avoir des parkings gratuits pour laisser une voiture éventuellement pour faire les derniers kilomètres. Parce que là, il n'y a pas de transport en commun. Je me suis battu pour passer un amendement sur le Grand Paris Express pour faire en sorte qu'il y ait des parkings obligatoirement gratuits à chaque gare. J'ai pas gagné, mais j'ai bon espoir qu'un texte revienne parce que je crois que c'est essentiel, passer d'un transport à l'autre. Et ça, effectivement, quand on est grand banlieusard, on n'a pas cette habitude.
Vous parlez du Grand Paris qui est un projet extraordinaire en soi. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une théorie, le principe de polycentralité ou de lieux de vie très différents qui finalement quelque part ne convergent pas uniquement sur Paris-Centre en termes, j'allais dire, visuel, patrimonial et autres. Est-ce que vous y croyez à cela? Est-ce que vous croyez finalement que la configuration de la métropole, c'est une multipolarité, une multiculturalité et une multicentralité?
Pour une partie des gens, c'est déjà le cas. Hein.
Ouais.
Quand vous habitez Cergy-Pontoise, d'ailleurs les grandes villes qui ont été construites dans les années 60, Cergy-Pontoise, 50 ans en Yvelines, Marne-la-Vallée et Évry.
Les villes nouvelles,
pour la grande partie des habitants, c'est la réalité. En fait, ils travaillent sur place, ils vivent sur place. Et finalement, Paris, ils habitent dans le Grand Paris, mais au fond, Paris, c'est pour aller à un spectacle, aller au Forum des Halles, aller dans les grands magasins, j'espère, régulièrement. Mais en réalité, ils cohabitent à côté de Paris. Donc, c'est déjà une réalité. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les transports en commun doivent être correspondre à cela. Et ce n'est pas le cas, puisqu'à l'heure actuelle, c'est une étoile. Hein. Tout va vers le centre de Paris et repart vers le centre de Paris. C'est ça qu'on essaye de transformer avec le Grand Paris Express, de faire en sorte qu'on puisse habiter à côté de Paris, centre, sans devoir rentrer dans Paris, quand on n'a pas besoin.
Quand vous avez un État qui a littéralement saigné les municipalités et les communes avec des transferts de compétences, des transferts de charges, sans y associer les recettes, voire même en enlevant des recettes pour certaines municipalités. On était à la MIF pendant 2 jours. Je peux vous dire que les maires de Paris, les maires d'Île-de-France sont quand même assez circonspects là-dessus. Et qu'en même temps, il y a une pression démographique qui fait qu'il faut bien qu'on loge ses habitants. Loger, c'est s'administrer. C'est schizophrénant. On a un État qui vous dit, qui sort une circulaire qui s'appelle ZAN, zéro artificialisation nette, qui obstrue très largement la construction d'immobilier neuf. Et on en a besoin, Henri, en Ile-de-France, pour absorber les flux démographiques. Et vous l'avez rappelé, il y a des personnes qui quittent le centre-ville pour aller en banlieue. Pour aller faire quoi? Se loger, et se loger dignement. Et en même temps, il y a une pression auprès des maires, des régions, et vous en savez quelque chose, qui les oblige à, finalement à construire. Comment trouver un relais d'équilibre entre ces politiques locales, régionales, municipales, et un État qui devient de plus en plus jacobin, quelque part, et qui obstrue très largement la capacité des maires encore à essayer de bâtir, de construire et d'absorber les flux démographiques.
C'est une magnifique question ce que vous venez de poser et je vais essayer de répondre par quelques points. D'abord, dire que nous saignons les municipalités. Je voudrais bien regarder dans le détail. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire ça. Après,
reprenez la baisse des dotations de certaines villes sur les 5 dernières années.
Mais parce que souvent, elles ont perdu des habitants. Et comme maintenant, elles ont une dotation qui correspond au nombre d'habitants, c'est que souvent, il y a un lien de cause à effet.
Pardonnez-moi, ce n'est pas le cas de la ville de Mennecy. De Mennecy, par exemple, okay. Dirigée par Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président de la MIF aujourd'hui, qui a vu ses dotations fondre de 40% avec un flux démographique en augmentation. Pardonnez-moi.
Je ne connais pas ce dossier particulièrement sur des villes, mais nous avons compensé à l'euro, si vous parlez de la taxe d'habitation, on a compensé à l'euro près en fonction du nombre d'habitants. Donc dire que ça a parfaitement baissé, peut-être qu'il y a eu d'autres contraintes, peut-être qu'il y a eu des départs d'entreprises, je n'en sais rien, mais on va aller un petit peu plus loin. D'abord dire aussi que les maires bâtisseurs sont souvent les maires qui perdent les élections. Donc attention entre les maires qui vous disent, et j'adore les maires, j'ai eu l'honneur d'avoir cette fonction, donc il n'y a pas de malice de ce que je dis, mais attention entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font en réalité. Il y a aussi une contrainte en disant, si je bâtis, en général je perds les élections, j'aimerais bâtir, mais au fond c'est compliqué. Dire, est-ce qu'on peut construire des pavillons partout dans toute l'île de France et de faire un petit pavillon, un petit jardin avec une connexion? Vous savez quoi en fait? Ça a pu être possible, ça. C'est ça. Alors, je comprends que c'est le rêve, d'ailleurs, de beaucoup de Parisiens.
Mais oui.
Qui ne rêvent que de ça, de partir vers son petit lopin de terre. Et en fait, ça coûte extrêmement cher, extrêmement difficile. Et d'un point de vue écologique, c'est un non-sens. C'est vrai. Donc, il y a une vraie contrainte entre... D'ailleurs, l'électeur qui va voter très vert en disant « je veux absolument qu'on verdisse, qu'on mette des arbres partout », mais son seul but, c'est d'avoir un jardin et on sait très bien, et de bétonner une parcelle de terre pour pouvoir construire sa maison. Et donc, on est très français, hein, on pense quelque chose et puis à côté de ça, on rêve de l'inverse. Je crois qu'il faut trouver un équilibre. Et qu'évidemment, les transformations écologiques dans lesquelles nous sommes, d'abord, elles s'imposent à nous, elles s'imposent à la génération qui va arriver, donc on a une responsabilité dessus. Est-ce qu'on y va flamboyant en disant « c'est extraordinaire » Non, c'est difficile, il y aura plein de difficultés à lever. Mais c'est une obligation qui va se poser à chacun d'entre nous. Et quand on regarde, personnellement, pour nos familles, au fond, qu'est-ce qu'on veut ? On veut un air un peu plus pur ? Est-ce que c'est ce qu'on a à Paris? En fait, non. On a envie d'avoir un peu plus de respiration. Est-ce qu'on a envie d'une densification de Paris? Moi, j'entendais les densifications. On peut parler des tours. Une densification de Paris. Mais Paris est déjà une ville extrêmement dense. Extrêmement dense. Donc, est-ce qu'on veut encore plus de monde serré les uns après les autres? Non, je crois qu'il faut inventer avec vous. C'est votre rôle. C'est ça, les professionnels de l'immobilier. C'est ça, leur rôle, d'inventer la ville et la banlieue de demain. Parce qu'une ville, je le redis, naît vie et meurt. On regardait les villes américaines. Combien de villes américaines sont devenues des taudis ? Des grandes villes. Je pense à Détroit, mais il y en a d'autres qui sont devenues invivables et tout le monde est parti vivre un peu plus loin. Nous, on n'a pas envie de ça pour Paris. On n'a pas envie que ce soit un musée au centre de Paris.
Un immobilier qui peut se dégrader, on le voit par exemple dans le centre de Marseille qui est très très dense. Des immeubles mis en péril qui se contaminent les uns les autres aussi. Je souscris complètement à votre idée, un peu moins sur les équilibres, parce que je pense que finalement, on a un État quelque part qui joue un jeu, à mon avis, assez dangereux quand on voit les choses, entre ces équilibres, entre les municipalités à l'échelle de la municipalité, de la région, dans lequel on voit en fait que la charge de compétences et la charge de travail n'est pas toujours alignée sur les recettes qui s'y associent. C'est le constat que font aujourd'hui beaucoup d'élus. Alors effectivement, on peut comprendre que l'État ne peut pas tout, ne peut pas non plus tout faire.
Pardon, je vous interromps, je vais être taquin. Est-ce que vous connaissez un élu qui vous dit vraiment j'ai trop d'argent, j'en peux plus, vraiment reprenez-moi un peu d'argent? Moi, j'en connais pas. Et je peux vous dire que j'ai vu un paquet d'élus, quel que soit le bord politique, mais j'ai toujours entendu la même chose. honnêtement, je n'ai pas assez d'argent.
Ouais, ça
et, ça, et en même temps, on a beaucoup des lecteurs qui, d'ailleurs je partage beaucoup leur avis, prouvent qu'on a un peu trop de prélèvements, qu'on paye un peu trop d'impôts et qu'à un moment, peut-être que le service par rapport à ce que nous payons et le service rendu ne correspond peut-être pas. C'est peut-être votre cas, je ne sais pas, je ne veux pas... Mais très honnêtement, n'oubliez jamais ça. On est toujours, on fait tout sous contrainte. Vous êtes des professionnels de l'immobilier, vous faites sous contrainte. L'État, c'est aussi sous contrainte avec des choses très antagonistes et on doit trouver un équilibre. Mais l'équilibre, il doit toujours être le bien commun et surtout la perspective. Moi, je suis français. Nous sommes français. On a la chance d'être français. Français, ça veut dire qu'on veut parler au monde. On a cette sorte d'arrogance, mais de vouloir parler au monde. Et on veut trouver un chemin pour notre ville, pour Paris. Dire, voilà, c'est cette ville-là qu'on veut. On veut montrer, on veut que ça reste la ville lumière. Je travaille sur les Champs-Élysées. On veut transformer les Champs-Élysées. On a, vous savez, Champs-Élysées, c'est la plus belle rue du monde, ou la plus belle avenue du monde. Bon, on va être honnête. Hein, vous demandez ça à des Parisiens, c'est la plus belle avenue du monde. En réalité, ils vont vous dire, bah, non, en fait, j'y vais jamais. Pas. D'ailleurs, à un instant donné... Combien de Parisiens sur la... S'il y a 100 personnes, vous arrêtez 100 personnes, il n'y en a que deux qui sont des Parisiens.
C'est vrai.
Pourquoi ? Parce que cette ville, cette rue, qui est magnifique, avec des choses très bien, bah, elle est un peu datée. Et donc, il faut nous inventer avec un nouveau parc au sud, avec des nouvelles mobilités. C'est devenu une autoroute. Mmh. C'est ça qu'il faut inventer. Arrêtons de rester dans le passé. La seule chose,
puis elle
je trouve bien, on a Haussmann et nos rues, et je termine, pardon, je suis un peu long dessus. Vous savez, ce qui est extraordinaire à Paris, moi j'ai la chance de beaucoup voyager, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les rues sont belles. Toutes les rues sont belles. Et même, il n'y a pas de monument, les rues sont belles. Je pense à plein de rues, là, à l'heure actuelle. Je pense, l'avenue de Clichy, la rue de Milan, je ne sais pas, il y en a plein.
Et une
plein,
âme.
Pardon ?
Elles ont une âme.
Elles sont belles parce que les bâtiments sont beaux. Quelle chance, quelle chance. On élève nos enfants dans le beau. Et ben, on veut que ça continue, que ce soit non seulement beau, mais que ce soit vivable.
Alors, et abordable.
Je crois qu'autour de cette table, finalement, on est tous un peu d'accord. Hein. C'est-à-dire que Paris est une ville magnifique. Comment faire pour que demain, ça se construise correctement avec les professionnels de l'immobilier et qu'on réussisse à trouver des passerelles entre les professionnels de l'immobilier et la politique ? De toute façon, il n'y aura pas le choix, je crois.
Mais on a besoin de vous. Vous savez, moi, je viens, je passe du temps avec vous et parce que je veux réussir à vous convaincre et qu'on a l'obligation de travailler les uns avec les autres. Un maire qui vous dit j'ai cette problématique et il faut les entendre, il faut essayer de l'accompagner. Mais il faut aussi comprendre que parfois, il est aussi dans un immobilisme et pris par des contraintes qui ne sont pas forcément uniquement ce qu'il vous dit. Comment on fait pour construire plus ? Oui, on a besoin de construire plus, mais il faut construire mieux. Mieux qui correspond à une construction du 21e siècle. On ne peut pas continuer à faire que des pavillons les uns à côté des autres ou des grands malls au fin fond des banlieues. Ça ne correspond plus, d'abord, je crois que ça ne correspondra plus à l'usage à terme, mais surtout, ça ne correspond plus au temps qui est un temps où on doit faire beaucoup plus attention à notre environnement. L'environnement, c'est notre patrimoine, comme la sécurité sociale, c'est notre patrimoine à tous. Et donc, il faut le préserver. Et à côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de business à faire hein, pour l'immobilier. Il y a tout à construire. Construire neuf, construire du nouveau, construire du beau, construire de l'écologique, construire de l'agréable. On parlait des bureaux. Bah, les bureaux, maintenant, eh ben, il faut qu'ils soient beaucoup plus agréables pour que les gens aient envie de quitter leur télétravail pour venir. Et donc, comment on va faire pour que les professionnels fassent du bureau intelligent, qui s'allume automatiquement, qui se connecte avec des bornes électriques pour les voitures. Il y a plein de choses à inventer. Attendez, moi, c'est extraordinaire, moi, si... Peut-être plus tard, je me lancerai dans l'immobilier tellement il y a de choses à faire.
C'est l'optimisme dont je parlais tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une vision très... Le verre de Bergson est à moitié plein. mais en tout cas, c'est vrai que c'est des problématiques qui aussi peut-être touchent en fonction des âges. Peut-être que les réactions aussi dans la salle tout à l'heure étaient aussi... moi, personnellement, je fais partie d'une génération qui se sent très concernée par l'écologiste. C'est peut-être moins... L'écologie, pardon. C'est peut-être moins le cas des boomers. Il faut dire ce qui est aujourd'hui. Il y a un clivage aussi qui s'est créé en fonction des générations où effectivement la personne qui se dit je suis dans ma voiture, je suis bien, bon bah ce sera pour plus tard. Si vous, comme je le disais tout à l'heure avec Olivia, j'invite tout le monde à lire le rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière. Je veux dire, voiture ou pas voiture,
ouais, qui est extrêmement déprimant.
Déprimant, mais en fait, effectivement, quand on a des enfants, j'imagine que c'est votre cas, Henri, c'est votre cas. c'est difficile de se dire qu'on va leur laisser. Enfin, il n'y aura plus de question de prendre
oui, mais si
sa
on
voiture
agite,
ou pas.
Oui, mais si on agite, pardonnez-moi, mais si on agite systématiquement de façon négative une vision apocalyptique du devenir de l'écologie, etc., je ne pense pas qu'on aura la possibilité. Moi, je peux aussi vous citer un autre livre qui a été écrit, un manifeste qui a été écrit par Emmanuel François, le président de Smart Building Alliance, qui dit qu'on a une capacité de réversibilité à condition que les sociétés humaines s'organisent. Et je pense très franchement que. Je pense que vous en conviendrez, notre gouvernement, l'État français, a bien pris en main ce sujet, comme tous les États d'Europe. Et comme dirait le président de la République, je pense qu'on est bien conscient qu'il n'y a pas de planète B et qu'à partir de là, effectivement, tout s'organise, bien évidemment.
Il faut qu'on organise une croissance verte. Dans croissance verte, il y a verte et il y a croissance. Et donc, c'est plein d'opportunités quand on pense aux véhicules électriques. Ça fait partie des vraies transformations. Est-ce que c'est contraignant? Alors, il y a quelques contraintes, mais honnêtement, je viens de passer à l'électrique. C'est plein d'avantages incroyables.
Ah, oui.
Plus
j'ai
la
une,
queue
j'ai
aux stations essence, c'est incroyable. Et donc, la seule, très très nerveux, des super véhicules qui font moins de bruit, mais il y aura d'autres contraintes. Mais cette évolution, moi je crois beaucoup que chaque Français a envie. Il faut des bornes.
Oui, mais est-ce que l'électricité est vraiment écologique? C'est ça la vraie question.
Alors ça, voilà, on va aller plus loin. Mais
elle est produite par des centrales nucléaires, non?
Chaque Français, en fait, ce qu'il veut au fond. Je crois profondément fondu, c'est faire un geste écologique et parfois un geste important. Mmh. Certains, ça va être une rénovation thermique de leur bâtiment, de leur bien. Et donc, il faut que l'État puisse les accompagner. D'autres, ça va être leur mobilité, faire évoluer leur mobilité. Mais je crois que chacun d'entre nous a envie de faire ce geste et que si on arrive à le combiner et l'accompagner... Michael Nogal, tout à l'heure, parlait du vélo. Moi, à Paris, je ne fais pas de vélo parce que j'ai peur de faire du vélo, parce que je trouve ça dangereux.
C'est un peu dangereux.
Et donc, il faut qu'on organise le fait de... Et là, je suis d'accord avec lui, que les voies cyclables soient plus simples. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants fassent du vélo dans Paris. Je trouve ça dangereux. J'ai peut-être tort.
Vous n'avez pas tort. Vous avez absolument raison.
Il y a une traumatologie aujourd'hui.
Mais c'est dangereux à cause des voitures.
Par contre, si on construit, et c'est ce qu'il faut faire, accompagner, mais ce n'est pas facile, hein, parce que les rues de Paris, elles sont pas larges hein, pour beaucoup. Pour le centre de Paris, là où je suis élu, c'est compliqué. Hein.
Oui, avec
mais
des traçabilités de vélo qui arrivent à sens inverse, croyez-moi, c'est pas facile.
C'est compliqué. Et c'est compliqué pour les piétons.
Qui a pensé ?
100% des Parisiens sont piétons. Mais il faut qu'on organise ces mobilités douce, qu'on les accompagne avec des hubs de mobilité à un endroit où vous avez des trottinettes, des vélos, une station de métro, peut-être une voiture à partage, tout au même endroit, si on a 200-300 stations comme ça. Ouais. Attendez, c'est incroyable, on va inventer la mobilité
Amsterdam
demain.
Amsterdam l'a fait, c'est génial. C'est vraiment génial. Et c'est sans appel, hein, la voiture. Il y a même une ville en Espagne qui a carrément interdit les voitures dans sa ville et qui a centralisé complètement son centre-ville, donc cœur de ville, sur des mobilités douces. Et je suis tout à fait d'accord avec vous.
Oui, puis c'est bon pour le cœur hein, de faire du vélo.
Ou de marcher.
Non, mais il faut imaginer, c'est un défi pour les pouvoirs publics de tous bords, une ville heureuse. Et heureuse notamment parce que la transition environnementale, plus que énergétique, y aura réussi. On est encore sur un paradigme punitif, malgré les efforts qui ont été faits. Et la profession immobilière, par exemple, elle le vit encore beaucoup comme ça. C'est une contrainte. Dans la future loi climat-énergie qui sortira, sera promulguée en octobre, sans doute définitivement, malgré les efforts de Michael Nogal, d'autres, eh bien on dira, mais ça c'est encore un truc de plus, etc. Il faut ouvrir les chakras là-dessus. Il se passe quand même quelque chose. La Convention citoyenne pour le climat.
On va s'adapter, Henri.
Oui,
comme on l'a toujours fait.
Mais je n'en doute pas. Et simplement,
je suis persuadée que ça va booster la réflexion et que ça va modifier aussi la façon dont les professionnels font ce métier.
Il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Il va falloir le faire vite et avec enthousiasme. Sachant qu'une mission du professionnel, c'est d'être un décodeur, un traducteur par rapport à des réalités traduites dans des lois hein, en général. Et ce n'est pas un rôle facile. Ce n'est pas un rôle facile parce que les propriétaires, eux, en bout de chaîne, ils ne le vivent pas bien. Vous disiez très justement, celui qui veut sa maison individuelle, il faut l'expliquer que ce n'est peut-être pas ça qu'il va avoir. Ce n'est pas son idéal, mais qu'on va bien le loger. Donc, toute sa didactique, elle est difficile. Et deuxième chose, pour finir, les maires. Le rapport entre l'État et les maires. Moi, je dis que ce quinquennat aura été le quinquennat, me semble-t-il, du divorce, moi je suis jusque-là, entre l'État et les collectivités locales, en tout cas d'une dégradation des relations. Et que l'enjeu du prochain quinquennat, il sera peut-être mené par le même président de la République, mais l'enjeu du prochain quinquennat sera cette réconciliation, et notamment l'accompagnement à la mode d'emploi. Moi je suis maire, on me dit à Lausanne, On ne peut pas être contre le ZAN. Je suis pour, voilà. On va arrêter d'artificialiser les sols. Mais comment je fais ? Comment je fais ? Pour loger tous ceux que je dois loger. Parce qu'un maire, il a cette pression, on vient le voir. Il y a les enfants, les petits-enfants, logement social, logement privé, individuel, collectif. Comment je fais ? Il y a aujourd'hui un désarroi des maires, les questions fiscales, les questions de ressources, mais un désarroi sur la méthode. Alors, un peu moins de désarroi des maires des grandes villes. On a beaucoup parlé des grandes villes. Mais villes moyennes, villages, communes rurales, il y a un vrai désarroi. Cet accompagnement des maires, il va falloir le faire. Ce n'est pas une question politique, ce n'est pas à la droite, la gauche. Voilà. Il y a aujourd'hui des maires bâtisseurs. Par exemple, ça m'émeut en région Île-de-France. On peut en citer, on peut citer un Philippe Pemzec, on peut citer le maire de Meudon. On peut citer, bon, des maires bâtisseurs qui disent « moi aujourd'hui je ne bâtis plus, il faut s'interroger ». Et ils ne sont pas de couleur opposée à la majorité actuelle. Donc le sujet n'est pas politique, il est « j'y arrive plus ». Il y a des sujets, c'est compliqué, il y a la question des recours, il y a la question des enquêtes publiques.
Il y a la question des infrastructures, parce que pour construire, il faut de la mobilité, il faut des crèches, il faut pouvoir accueillir une population. Et non plus les
voilà, la viscosité des permis de construire, voilà. Et là-dessus le législateur
les
a fait des choses.
Les seuils.
Les seuils,
absolument.
Les seuils, absolument. Donc tout ça, je pense que c'est dans les 5 ans qui viennent, voilà, je dis le quinquennat à venir, qu'on va vraiment décomplexer les maires, les élus et la population sur tous ces sujets-là. Moi aussi, je suis optimiste. Il y a des choses qui vont être chaudes, hein, on le sent déjà, et la conviction à faire, la didactique. Mais oui, ça va marcher. Mais il faut pousser en mêlée, quoi.
Voilà. Alors, c'est juste ajouter pour répondre. Il faut cesser de cibler les agents immobiliers, les professionnels immobiliers, l'ensemble des filières métiers comme étant les premiers coupables oui, du poids d'empreinte, de l'empreinte carbone bien sûr, dans les bâtiments, des personnes qui ne sont que des capitalistes et que des personnes qui thésaurisent. Il faut quand même rappeler des réalités, c'est que le coefficient de détention de la propriété en France, il est inférieur à 1,1, c'est-à-dire qu'on est propriétaire de sa résidence principale, que la plupart des propriétaires bailleurs sont des petits propriétaires dont le revenu est une adjonction pour la retraite, pour arrêter à un moment donné, de fustiger la propriété et le droit de propriété. Parce qu'à un moment donné, il y a des déséquilibres. Et ces déséquilibres génèrent de la rancune, vous le savez, génèrent quelque part une amertume. Et tout ça, ça bouleverse les résultats des urnes, notamment. Voilà.
Mais c'est vrai que, je vais vous donner la parole, on va terminer dans quelques instants, mais c'est ce que disait Sylvain Maillard tout à l'heure, si je m'abuse, c'est qu'effectivement, on est plutôt dans le paradoxe français. C'est-à-dire que le français, il veut en même temps que ses enfants, ils ne respirent pas la pollution, mais en même temps, il veut rouler en voiture. Et de manière plus large, je ne le vois pas.
En même temps.
Je vais, voilà.
Non, il est ravi.
Les enfants sont dans la voiture.
Mais non, mais il y a ce problème de choix très franco-français, et du coup, peut-être plutôt que d'opposer les professionnels de l'immobilier à ces mesures écologiques, comme vous le disiez, Émilie,
plutôt les concerter, de
développer ces solutions économiques qui vous attendent.
Ils ont même installé des
composts dans les cours d'immeubles, appris le tri aux occupants des immeubles. On est les premiers relais entre la mairie, les gardiens, les conseillers syndicaux, les copropriétaires et les occupants locataires. Donc,
et c'est un sujet qui tient à cœur à votre présidente Danielle Dubrac.
Oui, mais en fait, je pense que c'est aussi, mais c'est l'avenir. Enfin, il faut être réaliste. C'est le monde qu'on veut pour nos enfants.
Émilie, vous le faisiez. Moi, j'ai des enfants, je suis comme tout le monde. Les normes avant même qu'on impose des ordonnances. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés négatifs autour des professions immobilières. Et on l'a vu ces dernières années, malheureusement. Et je l'ai observé, parce que moi, je suis un journaliste et un observateur, une dégradation de ces relations. Je salue quand même les démarches de certains députés. Et je salue d'ailleurs vos démarches, puisque c'est la preuve d'une vitalité démocratique de pouvoir débattre de façon bienséante sur ces sujets-là. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question. En 2025 et en 2028, il y a un tiers du parc locatif privé qui va être retiré de la circulation s'ils n'ont pas fait les travaux de rénovation énergétique. Moi, la question que je pose, c'est comment on va loger les Français demain ? C'est juste ça.
Ils vont rester dedans.
C'est comment
ils restent là-bas.
En 1974, il y avait un peu moins de 300 000 logements qui étaient fabriqués en France. Il y avait 60 millions d'habitants. On est en 2021, il y a 70 millions d'habitants. Et on est au même chiffre qu'il y a 40 ans. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. À un moment donné, le réveil sera brutal. D'ailleurs, je me pose même la question, comment les Français qui ont manifesté pour la hausse du carburant ne manifestent-ils pas pour leur logement, quand on sait qu'il y a 5 millions de personnes mal logées en France et 2,5 millions qui attendent un logement social? C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter.
Alors, vous avez dit des choses et puis l'inverse. Pardon.
On prolonge le débat.
Ouais. D'abord dire que... je vais rebondir tout de suite sur ce que vous venez de dire. Là, vous êtes en train de dire, finalement, une chose et l'inverse. mais je comprends, parce qu'au fond, c'est chacun d'entre nous ressent de la chose. Tout à l'heure, vous avez parlé en disant les Français perçoivent mal les professions de l'immobilier, je crois que vous avez dit ça, ou bien les petits propriétaires sont mal vus par le reste de la population.
Ah non, non. Sont bien vus par l'appareil législatif.
Par l'appareil législatif.
Non, non, c'est d'accord. Pas les Français qui perçoivent mal les propriétaires.
Ok, moi je vois plutôt.
On présuppose que les propriétaires.
Plutôt bien, même je fais partie d'eux, mais je vais aller plus loin. En fait,
l'impôt sur la fortune immobilière n'existe que de
voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si vous arrivez jusque-là. Sur les propriétaires, quand vous regardez, la vraie difficulté, c'est qu'on a un âge moyen qui ne fait que reculer. C'est-à-dire que les propriétaires sont globalement de plus en plus, année après année, plus âgés. Pourquoi ? Parce que pour accéder à la propriété, il faut avoir souvent acheté. Vous l'avez parlé tout à l'heure des primo-accédants. Il y a quelques années, parce que maintenant, c'est inaccessible. Entre ce que vous gagnez et ce que vous pouvez acheter, il n'y a plus les moyens. Vous achetez petit. En règle générale, vous restez locataire toute votre vie. C'est-à-dire que vos parents sont beaucoup mieux logés que vous, alors que vous travaillez et eux sont à la retraite. Ça, c'est une inégalité qu'on a particulièrement en France. On va pas aller trop loin ce soir, mais il y a un vrai problème où les retraités ont un revenu supérieur aux actifs à l'heure actuelle en France. Il y a deux pays dans le monde, le Luxembourg et en France. Il n'y a que là où ça existe. Donc là, il y a un vrai souci d'inégalité. Et je crois que l'injustice est ce qui est extrêmement difficile, c'est quand vous élevez des enfants et que vous avez 35 ans et que vous êtes avec deux salaires, de vous dire, en fait, j'ai l'incapacité d'acheter et je ne pourrai jamais acheter un logement pour vivre avec ma famille, alors que finalement, mes parents, eux, ont eu les moyens, probablement avec moins de moyens, ont eu l'occasion d'acheter leur logement. Et donc, une inquiétude pour la retraite.
Un déclassement.
Mais en fait, en réalité, je serai locataire toute ma vie. Et ça, il faut bien comprendre que c'est ça qui fait qu'à un moment, on a le sentiment que c'est injuste. Et donc, quand ça devient injuste, eh ben évidemment, la société devient plus bouillonnante.
Sylvain Maillard, juste le mot de la fin, puisque cette émission arrive à son terme et il va falloir qu'on se quitte. Il va y avoir d'autres plateaux derrière. En deux mots, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce plateau, cette table ronde sur la ville de demain ? Donc, on a bien compris qu'on parlait de Paris.
Peut-être une conclusion un peu différente de ce que j'ai la conclusion tout à l'heure. Mais de vous dire, il y a 15 mois, quand est arrivé le Covid... Moi, comme beaucoup de Français, peut-être c'était votre cas, j'ai cru que tout allait s'écrouler. J'ai cru que le monde économique allait s'écrouler. Le premier confinement, je l'ai vécu comme un changement de monde total. J'imaginais les difficultés, le chômage massif. On est 15 mois plus tard, l'économie est repartie. Évidemment, il y a des secteurs qui ont beaucoup pâti, mais grosso modo, ça fonctionne plutôt bien. On a un chômage qu'on a réussi à maîtriser. On est reparti dans une croissance, alors qu'on est encore sous Covid, on est encore avec des masques. Et on est reparti. Et ça, c'est parce qu'il y a une politique publique, honnêtement, qui a été à la hauteur. J'ai la chance de faire partie de cette majorité, mais j'en suis extrêmement fier. Et donc, je veux le dire. Mais ça veut dire aussi que les transformations qui étaient déjà à l'œuvre avant se sont profondément accélérées. La digitalisation, l'écologie... on parlait du télétravail, tout ça s'est accéléré extraordinairement vite. Et donc vous avez la chance, quand vous êtes dans l'immobilier, de rentrer dans un monde finalement assez excitant qui fait que tout va changer ou va s'accélérer. Et donc vous avez à inventer, vous faites partie de l'idée de la suite.
Un
Moi je trouve ça extraordinaire, honnêtement. Je trouve ça extraordinaire. Évidemment, ça va changer des situations. Évidemment, ça va changer des habitudes. Mais au fond, imprimer sa marque sur sa génération et sur la génération à venir, c'est notre rôle, c'est votre rôle. Et au-delà des débats qui ont été parfois un peu... je suis certain que vous en êtes pleinement conscient. Et on compte sur vous pour nous aider à transformer la ville, les villages, nos villages, la France... pour faire de la France de demain.
Ben moi, je compte sur vous pour revenir dans un autre plateau. On aura plus de temps pour débattre.
Pour échanger de ces problématiques. Merci Sylvain Maillard, député LREM pour la première circonscription de Paris. Merci Henri, président de l'IMSI. Merci Émilie Asselin-Jousset pour votre intervention aussi, puisque c'est quand même vous qui êtes à l'initiative de cet événement, les rendez-vous de l'UNIS.
Voilà, on est toujours très fiers d'organiser de beaux débats à l'UNIS Grand Paris et on continuera.
Ben écoutez, on sera là. Voilà, on vous souhaite un excellent appétit.
Hein. Merci, Charles.
Merci, bonne soirée.
À très bientôt sur Radio Immo.
Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux-Combalusier. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.